BD culte, exploration de planches iconiques du 9e art. Aujourd'hui, on revient sur Tintin de Hergé à l'occasion de la sortie d'une belle coédition Moulinsart-Casterman du Lotus Bleu, une version colorisée au mois de janvier 2025 d'un album paru initialement en 1936 en noir et blanc qu'on trouvait dans les archives Hergé. On a 124 pages colorisées d'un album culte de cette série. Il a été pré-publié dans le Petit 20e et Hergé a réalisé 52 couvertures de 1934 à 1935. Par la suite, il a revu le montage avec une version de 64 pages mise en couleur en 1946 en collaboration avec Edgar Jacobs, l'auteur de Black et Mortimer. On a aussi en ce moment une belle expo au musée Tintin de Louvain-la-Neuve. Alors, nous rappeler qui était Hergé, Georges Rémy, né en 1924, un Belge qui nous a quittés en 1983. C'est le maître de la ligne claire. Il était aussi illustrateur, publicitaire et, vers la fin de sa vie, peintre abstrait. Il est l'auteur de trois séries cultes, Quick et Flup, autour de ses mémoires d'enfance dans le quartier des Marolles, Josette et Joko en 1935, une série plus familiale, et Tintin, vraiment sa série phare de 1929 à 2004 avec un album inachevé. Alors Hergé a eu une vie assez symétrique, 22 œuvres, 2 femmes, 2 unions de 25 ans, un amour avec Germaine, pendant qu'il écrivait le Lotus Bleu, il était autour d'un univers assez catholique de l'abbé Wallet, et ensuite Fanny, sa coloriste en 57. Et à chaque fois, dans ces unions, dans ces moments de la vie d'Hergé, il y a eu deux œuvres clés autour de l'Orient, Tintin et le Lotus Bleu et le Tibet. Et effectivement, le personnage de Chang va revenir deux fois. Alors, l'album dont on parle aujourd'hui, c'est La Cinquième Aventure. C'est le premier grand chef-d'œuvre de la série qui était déjà un petit peu amorcé dans l'album précédent dont on a déjà parlé. Autour des secrets, des cigares de ce pharaon mystérieux. On est vraiment après une période où Tintin a été aux États-Unis, au Congo, en URSS, on était dans des clichés, et là, explicitement, Hergé va dépasser cette vision un peu manichéenne et ses clichés. L'album confirme une orientation de la série vers une complexité plus adulte, voire assez hermétique. C'est la suite directe donc des cigares du pharaon, et on a une unité narrative resserrée avec des personnages forts et puis une couverture iconique avec ce dragon qui est vraiment dans l'iconologie taoïste très présent, notamment avec les codes couleurs entre le rouge, le noir et le bleu. Voilà, couverture magnifique. La planche qu'on va vous lire, on va vous donner l'ambiance de l'album. Dans le Lotus Bleu, Tintin va s'engager à démanteler un trafic d'opium international qui sévit dans un pays mythique qu'il va découvrir, c'est la Chine. À l'aube de ce récit, il se trouve en Inde et il va partir suite à sa rencontre avec un curieux messager qui est frappé par une fléchette, le rendant fou. Et le message, c'est que Mitsurato a besoin de Tintin. Alors Tintin, bien entendu, il est curieux. Avec Milou, il part. Et il va se retrouver aidé par une société secrète, les Fils du Dragon. Et découvrir, sauver un jeune homme, donc on va découvrir ça dans les planches, un jeune chinois qui s'appelle Chang. Et bien entendu, il va réussir à lever les obstacles et à vaincre une partie de cette société secrète, mais qui va se retrouver dans d'autres albums. Alors, on va lire l'album. Alors, la première planche, la page 85, on a 8 cases totalement muettes, où on voit Tintin se déshabiller, sauter dans une rivière qui est en crue, et sauver un jeune chinois. Ce jeune chinois est habillé de vert, et Tintin est très content. À la fin de la planche, il dit à Milou, « Il vit !» Eh bien, ça va mieux. Au fait, quel est ton nom? Moi, je m'appelle Tintin. Moi, Chang. Mais pourquoi m'as-tu sauvé? Tintin est très surpris. Chang. Oui, tu es un blanc, et pourtant tu m'as sauvé la vie. Je croyais que tous les blancs étrangers étaient méchants, comme ceux qui ont massacré mon grand-père et ma grand-mère il y a bien longtemps. Mon père m'a dit que c'était lors de la guerre des points de justice. Tintin. Ah oui, la guerre des boxers. Mais non, Chang, surtout, les Blancs ne sont pas mauvais, mais les peuples se connaissent mal. Ainsi, beaucoup d'Européens s'imaginent que, et là on voit une image d'un Asiatique avec des longs doigts crochus derrière un dragon rouge, tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels qui portent une tresse et passent leur temps à inventer des supplices et à manger des œufs pourris et des nids d'hirondelles. Pour eux, toutes les Chinoises ont des pieds torturés depuis l'enfance pour qu'ils restent tout petits et toutes les rivières sont pleines de petits Chinois que l'on jette à l'eau dès leur naissance. Et voilà, dit Tintin, ce que beaucoup d'Européens s'imaginent. Ah ah, qu'ils sont drôles les habitants de ton pays. Pendant ce temps, on voit deux militaires japonais discutant. Alors on a Mitsuhirato, lui qui est plutôt un personnage d'espion. Général, je vous apporte des nouvelles de Tintin. Vite, où est-il? Je viens de recevoir un télégramme m'annonçant qu'il a pris ce matin le train pour Hukou. Hukou, mais c'est en plein territoire chinois. Nous ne pouvons rien faire contre lui. Pardon, général, il y a un moyen, et ce moyen, le voici. Voilà, suspense, cliffhanger. Alors, ce qui apparaît dans ces deux planches, c'est le sens qu'Hergé donne au mouvement et la capacité qu'il a de créer, finalement, des actions ou une émotion sans dialogue. La première planche est quasiment muette. Et après, on va des images clichés qui illustrent des propos pour déconstruire des clichés. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi d'avoir deux scènes de dialogue un peu en miroir. Deux amis, finalement, qui vont apprendre à être amis. On voit le côté généreux de Tintin, qui risque finalement sa peau pour sauver un inconnu. Et d'un autre côté, deux personnages japonais fourbes qui discutent avec comme point de mire ce Tintin, avec l'idée de comment l'éliminer. Donc voilà, on est au cœur de l'intrigue du Lotus Bleu et au cœur d'une amitié qui va avoir énormément de sens dans la suite des aventures. Voilà, revenir sur Tintin, bon, héros effectivement un peu iconique, c'est un personnage en creux, et ce qui va définir Tintin, c'est le sang de l'amitié, ça va se confirmer par la suite quand il va rencontrer Haddock et Tournesol, et puis on avait déjà une amitié forte avec le petit chien Milou qui est toujours présent. Tintin, c'est le cœur pur, l'âge est assez indéterminé, peut-être qu'il a 15 ans, on ne sait pas trop, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, et finalement, au début, Tintin s'inspire peut-être du Boy Scout Renard Curieux ou de Totor que Hergé avait dessiné, aussi du Tintin Lutin de Benjamin Rabier. Tintin, il est à la fois personne et puis tout le monde. Et là, on va voir qu'il va se déguiser plusieurs fois pour échapper aux Japonais. En tout cas, c'est un aventurier tout terrain. Alors, un reporter, effectivement, comme le premier titre de la série l'indiquait. En tout cas, il n'aurait fait qu'un seul article. On ne trouve pas d'autres références. On a à la fin de l'album une page de journal. Voilà, Hergé au début voulait être journaliste. Et là, on a effectivement l'archétype d'Albert Londres, du journaliste. Il faut savoir qu'Albert Londres avait aussi enquêté sur cette période trouble de l'histoire. Voilà. Alors, nous dire qu'on va retrouver les Dupont dans l'histoire, deux policiers un petit peu ridicules. Voilà, qui apparaissent dans les cigares du pharaon, agents de l'ordre, on va dire, autistes et causant beaucoup de désordre. Et bien sûr, là, voilà, Tintin n'est pas encore établi avec la trinité Haddock et Tournesol qui va venir par la suite. Là, on est dans un univers très contextualisé, ancré dans, on va dire, le premier acte de la Deuxième Guerre mondiale, l'agression du Japon contre la Chine, c'est un attentat sous faux drapeau, c'est-à-dire un attentat à la bombe contre une ligne de chemin de fer de Mandchourie du Sud, faussement attribué à des bandits chinois, où le Japon va en profiter pour envahir la Chine. Voilà. Et il y a une idée d'une société secrète. Alors, dans l'album, on a une société secrète plutôt positive. Dans l'histoire, on avait bien une société secrète, le Dragon Noir, qui allait aussi, avec des sociétés secrètes nazies, avec la guerre de l'opium, financer finalement la vente des armes et peut-être préparer la Deuxième Guerre mondiale. Et Albert Londres serait peut-être mort parce qu'il aurait trouvé des éléments impliquant cette société secrète. Voilà, ça c'est une hypothèse qui n'est pas avérée historiquement. Voilà, alors ce qui est fort aussi, c'est l'idée de l'amitié réelle avec un certain Chang, qui lui s'appelle Chang Chongzhen, qui a été présenté à Hergé par l'abbé Gosset en mai 1934. C'est un étudiant catholique chinois, il a 26 ans, Hergé en a un an de plus, il a 27 ans. Il va donner des conseils au dessinateur pour dessiner au pinceau en communion avec l'effort de la nature. Chang est taoïste et ça va se ressentir dans la philosophie, notamment dans l'album Tintin au Tibet qui va venir bien plus tard. Dans l'album, Chang apparaît représenté par Hergé dans le cinéma, page 64, mais aussi c'est lui qui a créé les idéogrammes, les calligrammes sur les murs et les calicots de l'album, qui donne aussi un deuxième sens de lecture possible, plutôt autour de la sagesse. Là. Ils vont se séparer en 1935 sans vraiment pouvoir se dire adieu, et les retrouvailles de quelques années avant la mort d'Hergé, trois ans avant la mort d'Hergé, en 81. Chang, lui, de peintre, s'est développé en tant que sculpteur et il va réaliser un buste à Hergé et on va retrouver Chang dans Tintin au Tibet. Vous voyez, donc il y a une espèce de symétrie à la fois dans l'œuvre, dans deux moments clés de l'œuvre d'Hergé, le Lotus Bleu et Tintin au Tibet. Alors, sur les personnages qu'on voit dans cet album, c'est une galerie de méchants assez étonnant. Alors, au début, on est en Inde avec un fakir un peu bizarre qui s'appelle Sipa Salpuvishni. Il lui tout de suite il voit ce qui va se passer, que Tintin, et c'est le lot de tous ses albums, va être mis en danger. Et là, le danger, il vient aussi de tous ces occidentaux colons, profiteurs sur le dos des Chinois. Alors on a Dawson, un anglo-saxon corrompu, on a Gibbons, un directeur d'une société de communication de Shanghai, on a le sage Monsieur Wang, lui par contre, un chinois membre des Fils du Dragon, qui lutte contre les ravages de l'opium et de son trafic. Malheureusement, son fils Didi a été rendu fou par un poison, et pendant tout l'album, il se balade avec une serpette pour couper la tête aux gens et leur rendre la sagesse. Voilà. Mitsu Urato, on l'a entendu dans l'extrait, lui c'est un commerçant japonais mais qui est un agent double et qui va finalement fomenter ce fameux attentat sous faux drapeau avec la complicité des militaires chinois qui font semblant de vouloir aider les militaires japonais qui font semblant d'aider les Chinois. Enfin, on s'y perd un peu parce qu'il y a une grande ambiguïté, c'est le fameux général Aranoshi qui est toujours représenté en colère dans l'album et un petit peu ridicule. Et à la fin, le retour du démiurge, du Deus Ex Machina, c'est Rastapopoulos qui revient, on n'en dira pas plus, mais on va le retrouver dans les albums de Tintin. C'est un peu l'avatar de Seth, une espèce d'avatar de dieu du mal, qui était au début représenté comme un cinéaste en vogue et qui va avoir différentes formes, différents habits. Il va même être représenté dans la fin de la série sous forme de Méphistophélès. Alors, les influences sur cet album, bah, c'est une grande documentation. La série le journal, va faire toute une série d'articles sur le trafic de l'opium. Et aussi Albert Londres. Hergé a lu les rapports d'Albert Londres. Bon, Albert Londres n'aura pas beaucoup écrit, puisqu'il disparaît pendant cette période-là, malheureusement, lors d'un attentat. Et on a une documentation importante que Hergé consulte. C'est un livre de photos de l'allemand Heinz von Perkamer, qui s'est baladé en Chine. Au niveau dessin, bon, c'est la fameuse ligne claire. On comprend que Chang a aidé Hergé, finalement, à simplifier son trait. Hergé a comme maître Alain de Saint-Augan, hein, qui a créé la série Zig et Puce. Et on peut dire que cet album, il a une grande postérité, parce que c'est la fin du premier diptyque classique de la série. On est vraiment dans le plaisir du feuilleton. Alors, il y aura après 5 one-shots et après 5 albums uniques, on aura un nouveau diptyque qui a été d'ailleurs en partie adapté au cinéma. C'est Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. Voilà, bon, bah, c'est un succès mondial, forcément. On a en tout 200 millions d'exemplaires vendus de Tintin. On a des ventes dans les galeries d'art. On a plus de 400 ouvrages d'exégèse. Et c'est vrai qu'il y a le journal Tintin qui a existé à un moment donné, malheureusement qui n'existe plus. Et ce rapport, cette dialectique entre la fidélité à l'histoire, hein, qu'on voit dans l'album, et aussi cette fascination pour les forces occultes qui est toujours chez Hergé. Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'on a chez les albums chez RG, une structure, finalement, 10 albums de préparation, 4 albums centraux, 2 diptyques, et puis les albums de rétablissement de la fin. RG a toujours dit que Tintin, c'était lui, c'était une émanation de sa psyché. Et ça, il l'a dit dans les entretiens avec Numa Sadoul. C'est aussi pour ça que, finalement, son droit moral est clair, il n'a jamais voulu que Tintin soit repris par qui que ce soit. Voilà, donc, se dire que Tintin est peut-être immortel, c'est l'image d'un enfant intérieur, l'image aussi, l'archétype d'un journaliste chercheur de vérité qui démasque les illusions du monde, et puis aussi un avatar d'un chevalier qui serait un cœur pur. Sur le plan juridique, on a une petite nouveauté au mois de janvier, c'est que pour le droit américain, le copyright de l'œuvre expire 95 ans après la publication. Donc effectivement, Tintin au pays des Soviets, créé en 1929, les droits patrimoniaux tombent dans le domaine public aux États-Unis. Voilà, c'est la règle. En droit français, c'est pas du tout le cas. Il faut attendre 70 ans après la mort de l'auteur. Donc en 2054, on pourrait éventuellement imaginer qu'il y ait une nouvelle suite de Tintin. Mais en tout cas, on a un droit moral qui perdure. On devra toujours citer Hergé et toujours finalement respecter l'esprit de ce personnage qui, on l'a compris, un idéal chevaleresque assez élevé. Et il est important de finir sur ces mots d'Hergé qui, finalement, à travers son personnage, a voulu montrer qu'à force de croire dans nos rêves, l'homme en fait une réalité. Et puis aussi, cette conquête du rêve par les enquêtes, démasquer le mal, comme on le voit dans le Lotus Bleu, c'est aussi l'idée d'une aventure intérieure, puisque Hergé a dit que les plus grandes aventures sont des aventures intérieures. Voilà, on vous invite à vous replonger dans l'Orient mythique et les aventures de Tintin et le Lotus Bleu, belle réédition collector de la version noir et blanc colorisé, 124 pages, coédition Casterman Moulinsart. Bonne redécouverte et bonne lecture. Et puis en profitez-en pour relire tout Tintin. On peut le relire de 7 à 77 ans, voire plus.